La loi du direct. Date de l'enregistrement.
Le 22 mars 2022.
Localisation.
Squat du Pigeon, ancienne banque du Crédit Communal à Liège.
Avec
Fanny Michel.
Profession serrurière. Sujet du reportage.
Le syndrome d'intensité.
Bienvenue dans le squat qui s'appelle le Pigeon Communal, qui était une ex-banque qui s'appelait le Crédit Communal.
C'est élégant.
C'est élégant.
Et tu vis ici avec combien de personnes?
Avec deux autres êtres humains. Enfin, pour l'instant, du coup. Et donc ça, c'est l'ancien guichet de banque dont on a défoncé une petite cloison. Et ça, c'est le salon qui nous sert à différentes activités, réunions militantes et autres collectifs qui souhaiteraient avoir une prise sur le monde.
Voilà.
Et ce qui est rigolo ici, c'est qu'on a gardé le coffre de l'ancienne banque. On l'a gardé, ce serait compliqué de ne pas le garder parce qu'en fait il est tout à fait indémontable. Et il a une grosse porte très épaisse. Et aujourd'hui, il sert de local de répète pour un groupe punk. Mais ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas venus parce que je crois qu'un des membres est mort. Je crois qu'il n'existe plus. Enfin, je crois. Soit c'est mon cerveau qui invente, soit je crois que c'est une information réelle. Je suis pas trop renseignée. Il s'est peut-être étouffé dans son vomi, ou encore il est peut-être encore vivant.
Tu l'as déjà entendu jouer avant qu'il meure ou pas du tout?
Ouais. Et j'ai déjà entendu le brouhaha organisé qui était la musique de ce groupe. Ils vont peut-être revenir un jour, mais. En tout cas, pour l'instant, ils sont pas là. Il y a des matelas pour héberger les gens qui viennent.
Et donc, c'est une chambre forte et les murs sont entourés de
j'imagine, de béton armé. Je sais pas, je me suis jamais amusée à forer le mur pour savoir quelles étaient les strates. Mais à mon avis, c'est quelque chose de costaud. Mais c'est quand même drôle à quel point ils ont protégé des morceaux de papier. Où il y avait peut-être des lingots à l'époque, j'en sais rien, mais... Donc ça, c'est la porte méga épaisse qui fait 25 cm d'épaisseur, dans laquelle il y avait une serrure blindée qui a été enlevée parce qu'il y a une fois, un jour, les squatteurs ont eu la mauvaise idée de s'enfermer à l'intérieur et des ouvriers de la ville ont dû les déloger en défonçant une partie de la porte. Et donc, du coup, ils ont eu la bonne idée d'enlever la serrure pour ne pas que ça se reproduise. Et ça, c'est l'ancien bureau, à mon avis, de la direction de la banque.
Il fait plus chaud ici.
Ouais. C'est un squat de luxe. Hein. On a installé le chauffage central.
C'est le chauffage central.
Dans les communs qu'on utilise le plus. Mais oui, ouais. On s'est dit que c'était pas parce qu'on était militants qu'il fallait qu'on subisse le froid et qu'on avait droit au confort aussi. Et alors, il y a des étages. On peut monter à l'étage. Je vais te montrer ma chambre. Si tu es consentante.
Oui, je suis consentante.
C'est ma chambre qui, contrairement aux autres, a un plafonnage à l'argile. Et voilà, j'ai fait toute une réserve de cartons. Ça fait 6 ans que je récupère les cartons d'emballage d'électroménager parce que je les trouve graphiquement jolis. C'est pour coller au plafond ici. À la base, je voulais faire un truc un peu désonorisant, mais c'est pas vraiment utile ici, alors du coup, ce sera juste esthétique. Et voilà, toute cette montagne de carton agencée différemment, c'est pour mettre au plafond. Et ouais, je voulais pas décorer ici parce que je voulais partir le plus vite possible. Parce que l'idée était de rester temporairement, mais en fait, bon. Finalement, j'ai décoré un petit peu.
Et comme on est dans une ancienne banque, il y a des barreaux aux fenêtres.
Ben oui. Mais je sais pas comment les gens ils auraient pu faire pour passer par ici. On ne sait jamais qu'ils auraient été déterminés de rentrer dans la banque. C'est curieux. D'ailleurs, c'est curieux parce que il y a des barreaux ici, mais pas au premier étage, tu vois. Alors qu'on peut accéder au premier étage via le toit. C'est une logique qui m'échappe un peu.
Il faudrait demander un cambrioleur de banque.
Ouais, c'est ça.
Apparemment, ils ont beaucoup attaqué par les étages. C'est resté une légende.
C'est ça. Du coup, ils se sont adaptés. Ils ont mis des barreaux qu'aux étages, mais pas au premier étage.
Et je vois que tu as un ordinateur enfermé dans un mur de Lego.
Ouais, c'est un ordinateur que j'ai fabriqué. J'avais acheté des composants. Je les ai mis dans... J'ai dézingué des égouttoirs IKEA en bois. Et j'en ai fait une espèce de structure pour que je puisse changer les composants le jour où ils me lâchent. Et j'ai entouré ça de murs en Lego parce que je trouvais ça joli.
C'est une super idée.
Quand on devine pas que c'est un PC, c'est pas forcément évident de se dire que c'est un PC.
Mais oui. On devine parce qu'il y a les câbles.
Mais oui, c'est ça. Quand tu mets les câbles, tu le vois tout de suite.
Et ça, c'est ma...
C'est ma balançoire autistique où je peux me faire des autocâlins en me mettant dedans comme ça. C'est très très bien, très apaisant.
Tu veux dire que tu te balances et ça fait des câlins
Oui, c'est ça, je me balance et ça crée une pression sur moi qui m'apaise tout de suite. Et c'est très très jouissif. J'ai mis 30 ans de ma vie à me rendre compte que j'avais besoin de ça. Et c'est tout. Pour aller bien, il faut juste que soit quelqu'un me fasse un câlin très très pressé, mais comme j'ai pas trop envie que les gens me touchent, y a très peu d'humains qui peuvent le faire. Mais quand ces humains sont pas disponibles, il faut bien que j'ai d'autres outils. Et du coup, j'ai
mais
ce truc.
C'est pas les mêmes effets qu'une balançoire.
Ben non, parce que la balançoire te câline pas. Là, c'est mon poids. C'est mon poids qui... tu vois, quand je me mets dedans... Ça fait comme une espèce de chrysalide œuf.
Oui.
Et c'est la gravité de mon poids contre le tissu qui me fait un câlin. Parce que le tissu me compresse. Après, je peux me balancer en plus.
Et tu mets tes jambes dans la lâche.
C'est ça, je mets les pieds ici, je mets mes fesses ici, je mets ma tête là.
Ah, t'es très serrée.
C'est comme ça, oui.
Entre deux morceaux de bois. Mais en fait, cet appartement était fait pour toi.
Exact. C'était fait pour... Il m'attendait, voilà. Je suis arrivée.
Parce qu'il y a de la terre sur les murs, il y a déjà les infrastructures en bois.
Bah oui.
Pour prendre le hamac qui te compresse.
Exact. Voilà, tout est parfait. Le chaos.
Et donc, tu aimes bien être en U? Coincée en U?
Ouais, ou alors en même assise, c'est déjà très apaisant. Et ça me permet de faire la balançoire aussi, parce que moi, j'aime bien me balancer. D'ailleurs, je suis en train de me fabriquer une espèce de version de rocking chair à mon atelier. Qui me permettrait de me balancer en position fœtale, comme ça, au sol, mais avec une oscillation qui est très large et lente. Et ça, c'est parfait pour moi, les oscillations lentes et larges. Et ça, c'est mon lit, mon super lit, entouré de matelas. On dirait un peu une chambre d'asile psychiatrique où, tu vois, les murs sont molletonnés pour ne pas que les gens ils se fracassent le crâne. Et moi, j'ai fait ça parce que j'aime bien être oppressée. J'aime bien être oppressée par des choses moelleuses. Alors, j'ai mis deux matelas autour de mon matelas. Et comme ça, j'ai un mur matelas. C'est. Et je crois que j'ai jamais aussi bien dormi que dans ce cocon de confort extrême.
Et c'est ta collection de matelas personnels que tu as ramené ?
Non, c'est des matelas que j'avais trouvés ici quand je suis arrivée.
Donc, tu as inventé avec les objets que tu as trouvés ici ?
Voilà. Et ça, c'est une penderie que j'ai fabriquée moi-même. Je voulais faire une penderie la plus minimaliste possible. Alors, j'ai mis deux planches que j'ai fixées en bas et en haut. J'ai fait des trous dedans. J'ai mis des manches à balai. Ça me permet d'accéder facilement à mes... Parce que moi, j'ai une forme d'impermanence de l'objet qui fait que quand je ne vois pas les objets sous mes yeux, ils n'existent plus. Alors, pour que je me rappelle que j'ai certains vêtements et que je les aime et que je peux les mettre, il faut que je les voie tous. Ils soient sous ma vue. Ce qui est plus charge mentalisant, c'est de faire des choses associées chromatiquement et graphiquement. Et ça peut me prendre du temps, mais comme c'est du plaisir, ça va. Mais en général, je mets toujours les mêmes fringues. Toujours le même pantalon trop grand d'homme avec des poches. Parce que je sais pas, c'est compliqué de trouver des pantalons de femmes qui soient pragmatiques et pratiques.
Ta chambre, elle ressemble à un musée, mais où les objets sont tout petits.
Il y a plein de petits détails.
Par exemple, celui-là, il est impressionnant. C'est un espèce de carnet qui est posé d'une manière...
Oui, puis il y a un peu des trucs très différents dedans. Je crois que j'avais une tentative de modélisation quand j'étais pré-ado du fonctionnement des comportements humains sous forme de petits symboles. Ça, c'est incroyable, la naïveté avec laquelle j'avais fait ça. Mais c'était quand même pas trop à côté de la plaque, je trouve, en termes de théorisation du comportement humain. C'était par rapport à la conscience. Donc, tu vois, il y a des petits triangles, des crochets. Et ça, c'était pour modéliser... Enfin, c'est mal dit, hein, verbalement, mais par exemple, le premier, le rond plein, il s'agit d'avoir conscience. Le rond vide, c'est ne pas avoir conscience. Le signe inférieur, c'est le fait d'avoir du pouvoir sur... du pouvoir tout court, mais j'avais une conception du pouvoir à l'époque qui était un peu pas très subtile et nuancée. Et le petit inférieur, slash, c'était ne pas pouvoir faire quelque chose. Et je sais plus ce que j'ai voulu modéliser avec ces trucs-là. Et je crois que j'essayais de comprendre, je faisais une espèce de synthèse des interactions que j'avais vues avec la personne et je l'ai modélisée sous forme de symbole. Je ne comprends pas l'utilité de ça, mais j'ai fait ça.
Tu avais quel âge quand tu faisais ça?
Je crois que j'avais 14 ans, un truc comme ça.
C'est très chouette.
Il est comme ça car c'est la manière la plus économique qu'il a trouvée pour se débarrasser de ce qui l'encombre le plus chez lui. Ah, ça, c'était une manière que j'avais de m'expliquer les comportements humains. C'était des notes que je prenais. C'est fatigant d'être moi. C'était une autre note. C'est fatigant d'être moi. Oui, oui, oui. Il y avait un autre truc où j'écrivais « Je suis pas avec vous, je suis juste avec moi. » C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà beaucoup de réussir à être soi-même. Oui, ça, c'était vraiment des notes que je prenais quand j'étais ado. This doesn't make any fucking sense. Ah oui, et puis je disais aussi quels étaient les symboles qui ne faisaient aucun sens. C'est quand même curieux que je me retrouve à faire ce genre de truc. Est-ce la structure cloisonnée de nos vies qui cloisonne notre pensée et notre langage, ou est-ce l'inverse? Ça, j'avais plein de pseudo-réflexions sur le langage qui limite la pensée et la pensée qui limite le langage. Un peu comme Noam Chomsky, il s'est amusé à faire. Le temps s'écoule, c'est la seule chose qu'il sait faire d'abord. Oui, oui, oui. Et puis là, il y a... des écrits sur la famille, sur le fait de subir, le fait d'atterrir dans une famille où t'as l'impression que personne te comprend et que t'es un peu comme une étrangère là. Tu vois bien que génétiquement t'as quand même été le produit de tes parents, mais que t'as vraiment l'impression d'avoir été produit par d'autres gens.
Et ce carnet, tu l'as rempli quand t'avais 14 ans ou alors?
Non, j'ai pas du tout rempli, tu vois, il y a que 4 pages qui sont remplies.
C'était une journée quand t'avais 14 ans?
Non, c'était une fois quand j'avais 14 ans, une autre fois peut-être quand j'en avais 20, parce que j'ai repris conscience que ce carnet existait. Il n'y a pas eu de désir précis de ce à quoi ce carnet allait servir.
Et tu as beaucoup de carnets?
Non, pas vraiment. Ah si, j'avais beaucoup de carnets où je prenais des notes, mais c'était tellement chaotique et mal écrit que moi-même, parfois, j'arrivais pas à me relire. Mais c'est vraiment ça symbolise vraiment parfois quand je relis mes notes, ma frustration de ne pas réussir à lâcher prise. Quand j'ai une idée, il fallait absolument que je la couche sur le papier tout de suite. Parce que je me disais que le monde n'allait pas pouvoir profiter de l'idée que j'avais dans la tête. Alors qu'en fait, si je lâche prise, j'ai des idées que je peux recréer plus tard et elles vont pas se perdre à l'infini. J'avais écrit, ah oui, pour présenter, je crois que j'avais une tentative de présentation de ce qu'il allait y avoir dans ce carnet. J'avais mis bribes affectives, logique, renversement de réalité, perception altérée, péripéties fictives, vanité, histoire, évaluation, construction verbale, fonction frictive, anecdote, mystère, échauffement neuronaux, intérêt, complaisance, futilité, relativisation, fixation,
tentative de théorisation, subtilité, revendication, masturbation intellectuelle, détail, altération, tranche de vie, jugement, colère, tentative de renversement de... j'ai rien écrit après.
Et t'as écrit ça quand t'avais 14 ans ou 20 ans, cette page-là?
Ça, je sais plus. Mais moi, j'avais un langage un petit peu trop développé pour l'âge que j'avais tout le temps. Donc c'est aussi possible que je disais ça à 14 ans, un truc comme ça.
Ton amour, tu sais, je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît.
Mais j'ai trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique.
J'ai un fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait. Sous quelques brouilles au fond, sans intérêt. Des boules de gomme et des matins parfaits.
Mais j'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme.
C'est vrai, mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je gardais dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. C'est pas croyable comme tout disparaît. Mais après tout, personne n'est parfait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distraite. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. C'est pas croyable comme tout disparaît. Mais après tout, personne n'est parfait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distraite.
Et alors, je suis ici avec Fanny, Fanny Michel. Nous sommes dans une émission qui s'appelle La loi du direct.
D'accord.
Alors, le principe de l'émission, c'est que pendant une heure, le temps de l'émission, ben, il n'y aura pas de montage. Et on est à Liège, dans une banque. Une ancienne banque, le Crédit Communal. Et donc moi, je m'appelle Zoé Jadoul et je suis... aujourd'hui, je suis reporter. Mais chaque fois que tu me parles, Fanny, oui, c'est comme une géante qu'on avait enfermée dans une malle qui se déplie. Il y a des signes comme ça d'alerte où on ne sait pas qu'on est déprimé. Il y a des signes comme ça où il y a le corps qui le dit quand même. Quand je fais des choses pas très bonnes pour savoir ce que je veux de cette vie, je perds le sens de l'orientation.
Ah.
Et là, je l'ai retrouvé. Ah. Je l'ai pas perdu longtemps, mais c'est des beaux signes.
Bon, on pourrait faire une analogie avec quelqu'un qui est perdu dans la forêt. Le moment où il considère qu'il est moins perdu, c'est le moment où il retrouve des choses qui lui semblent familières. Peut-être que tu retrouves des choses au bord des rives qui te semblent un peu familières. Dans la danse du chaos, tu vois quand même des petits trucs auxquels tu te sens rattaché. Et du coup, c'est sécurisant pour toi. Et donc, tu as l'impression de perdre la notion de la perte. Tu n'es plus perdu, mais tu es un peu moins perdu.
Mais je me sens très à l'aise dans la danse du chaos.
Ah oui.
Et donc, quand on est perdu, on va dans la danse du chaos. Et tout à coup, on est tout émoustillé parce qu'il y a plein de choses à regarder. Et c'est très lent, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est simplement En résumé, pour faire simple, c'est qu'on se relie à ses instincts. Donc le grand plaisir qu'on ait perdu, c'est de se perdre. On prend une voiture, on marche. Et chaque fois, on arrive à des endroits où on se dit on tourne à gauche, on tourne à droite, et puis on doit sentir si on a vraiment envie d'aller à gauche ou à droite. C'est assez perspicace. Et on arrive, en tout cas, on arrive souvent dans des endroits qu'on aime bien, genre les maisons abandonnées. Enfin, pour moi, je sais que j'aime ça. Ou la recherche du...
du lieu perdu.
Mais je rencontre pas... Je suis pas spécialiste en personne, donc je rencontre pas spécialement des gens... J'y fuis, moi.
Ah ouais, tu rencontres plutôt les objets. Tu vas dans les maisons vides et t'interviews les maisons vides avec des sons qu'elles produisent.
Je sais pas si j'interviewe ou non. Je cherche, je glane des objets que je peux... que je peux, enfin, j'aime bien bricoler. Je rapporte des objets, des morceaux d'objets dépareillés qui me donnent envie d'inventer la suite de l'objet.
Ouais, c'est rigolo. Moi, je fais beaucoup ça. J'ai passé de mon, enfin, je crois que j'ai passé ma vie à ramasser des choses par terre et à les mettre dans des petites boîtes et ensuite les mettre dans d'autres petites boîtes pour trier les petits morceaux. Et il y a parfois des petits bocaux de trésors qui sont les trésors ramassés par terre le dernier mois. Et c'est très joli, il y a des choses translucides, des choses toutes petites qui sont toutes entremêlées dans un petit bocal translucide. Et parfois j'ai envie de laisser ça tel quel, parce que ça me rappelle le mois de mars ou le mois de février. Ou parfois je les retrie dans d'autres boîtes où je mets par texture, couleur. Et comme ça, quand je mets ça dans ma matériothèque, dans mon atelier, dès que j'ai une invention en tête, je peux aller directement dans la boîte caoutchouc à résistance forte, caoutchouc résistance moyenne, compression forte moyenne, grande, petit morceau translucide curviligne, translucide droit en plastique, pas en plastique. Et comme ça, la période n'est pas trop longue entre le moment où j'ai une invention dans la tête, une petite machine à fabriquer ou un petit objet, et le moment où je le fabrique. Parce que j'arrive à trouver les matériaux. Et pour moi, ça correspond à un sentiment de liberté énorme que d'avoir la possibilité de créer ce qu'il y a dans ma tête. Assez vite. Et souvent, ce que je crée dévie de ce que j'avais imaginé, mais j'ai la psychoflexibilité suffisante que pour lâcher prise et me dire « Ah oui, en fait, c'est encore mieux que ce qu'il y avait dans mon cerveau. » Et après, soit je refais circuler l'objet, soit je l'utilise pour moi. Et je ramasse souvent, je fais mes courses aux encombrants dans la rue et je cross-fertilise les objets, c'est-à-dire que je détourne leur usage premier pour en faire un autre usage. Et ça, j'aime vraiment beaucoup faire. Je crois que je le fais depuis tellement d'années que je me rends même plus compte que je le fais. Je fais ça quasiment tout le temps. Et même pour les idées, c'est devenu un réflexe neurologique. Je transforme les idées d'une manière à ce que les gens n'attendent pas à ce qu'on en ait fait ça dans un autre contexte, mais ça produit quelque chose de constructif qui sert à tout le monde. J'ai l'impression de faire ça dans la matière et aussi dans la matière corticale dans ma tête. Je crois que ça, c'est un truc que je fais dans ma vie. Ramasser des petits trucs et faire d'autres trucs avec les petits trucs. Comme un écureuil qui ramasse plein de trucs. Qui est tout content de voir ses trouvailles quand elle revient chez elle et qui accroche des morceaux de chêne au mur et qui... Et qui, voilà, et qui, à un moment donné, en fera quelque chose, sans doute, ou pas, mais en attendant, ça reste là.
Tu dis qu'il y a des encombrants où on peut faire du shopping à Liège ?
Ouais, il y a des encombrants tous les mois, à peu près.
Vous avez de la chance.
C'est vraiment... Tu devrais faire du tourisme.
Tu me diras quand c'est ?
Ouais.
Ah, je pensais que ça avait disparu.
C'est par quartier, donc ça...
Ah, c'est
et c'est tant mieux, parce que des fois, moi, ce serait à l'échelle de la ville, je crois que je tomberais malade de burn-out shopping ce jour-là, parce que ma tête, elle se lance dans des foisonnances d'idées au moment où je vois des objets qui, parfois, ça peut être extrêmement épuisant.
Je suis contente que ça existe encore.
Ah, c'est rigolo.
Non, c'était une perte de cadeaux. C'est du glanage, c'est des cadeaux. Ouais. C'est un peu ça, le plaisir que j'ai de rentrer dans les maisons abandonnées, c'est de rencontrer des objets, des choses.
Et des vies abandonnées aussi, il y a des gens qui laissent des trucs.
Et donc il y a aussi un plaisir de ce truc de glanage, c'est Peut-être que je suis un peu sinistre, mais je pense qu'on va mourir un jour.
Il y a de fortes chances, oui.
Et je trouvais qu'il y a cet esprit-là, c'est de faire un trou dans la terre et d'y mettre plein d'objets qu'on aime bien, mais ce trou, il ne sera jamais trouvé.
Tu vois, ça, je l'ai fait plein de fois quand j'étais petite.
Et après, quand on sait qu'on va mourir, on se débrouille pour que ton corps aille avec le trou. Je ne sais pas comment faire.
Hein. Ah oui, c'est rigolo.
Tu trouves ça rigolo?
Et tu pourrais proposer ça. Mais toi, tu n'as pas forcément envie que ce soit trouvé.
Non,
si c'est pas trouvé, on ne va pas savoir où mettre le corps de Zoé.
Ah oui, si je veux pas qu'on s'occupe.
C'est juste un hasard heureux.
Oui, c'est surtout qu'on s'occupe pas de mon corps. Hein. Je veux pas qu'on me touche.
D'accord.
Surtout quand je suis morte. Quand je suis vivante, ça va, mais.
Pourtant, c'est mal barré parce que pour l'instant, en Belgique, je crois qu'on ne dispose pas de son corps.
Non.
À la mort.
C'est pour ça que je voudrais.
La propriété de l'État ou je sais pas quoi. Mais...
Je voudrais trouver une cachette et qu'il reste là pendant des. Jusque.
Et te faire composter dans une forêt de humus avec du champignon.
Bah, ce sera dans mon trou, hein, je fais ça moi-même.
Ouais, alors il faudrait que personne ne le sache, sinon tu vas te faire inhumer. C'est inhumer, c'est ça, enlever de la terre, enlever du trou. Tu vas te faire zoifier.
Et puis je pense aussi à la personne qui va faire la découverte, c'est quand même. Il y a un corps qui sera.
T'as lu le momie Ramsès de séché.
Il y a une mise en scène, tout un mystère, c'est...
Ouais, sauf que ça pose des problèmes, des questions, je crois, sanitaires. La raison pour laquelle ils avaient inventé les cimetières, c'est parce que...
Oui, mais c'est bien profond, là où personne ne va, c'est super sanitaire.
C'est ça, d'accord. Oh là là, c'est tout à fait...
Personne ne peut trouver.
C'est comme le projet CIGEO à l'échelle de Zoé, c'est le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. On va faire un ascenseur à corps de Zoé qui descend dans la terre.
C'est vrai que c'est une bonne idée d'aller là-bas. Merci du tuyau. Rapport à la littérature ?
Ben ouais, je lis pas. C'est dramatique. C'est dramatique parce que je sens que ça pourrait me rendre très... ça pourrait bien fonctionner avec le nombre d'idées que je produis à la seconde et mon envie de changer le monde et de faire les choses un peu mieux. Ça pourrait vraiment être utile pour les gens que je me mette à lire plus, etc. et à croiser ma pensée avec celle de ceux qui ont écrit. Enfin, c'est considéré que les gens qui écrivent ont plus de pensées que les autres, mais en tout cas, il y a des propositions auxquelles on pourrait avoir accès via ce canal. Et non, moi j'ai un truc bizarre avec la lecture où j'ai. À la base, ça vient d'une peur de qu'on me vole mon autodidaxie, de penser les choses toute seule, alors qu'en fait on n'est jamais tout seul quand on pense, on produit la pensée des autres, on se fait influencer, etc.
Tu veux dire que t'as des complexes quand tu lis les autres, ils t'influencent et c'est plus tes idées à toi ?
Ça c'était un faux problème que j'avais avant. Je me suis rendu compte en fait que il y avait d'autres raisons pour lesquelles je lisais pas. J'ai des problèmes attentionnels qui font que je pars très vite dans ma tête et je lis plus trop le bouquin de la personne. Il y a aussi le fait que parfois j'ai envie de rester fidèle à ce que la personne écrit. Et en fait, j'ai tendance à mélanger ma pensée à... Je me réapproprie la pensée des autres pour en faire quelque chose de concret. Et parfois, on m'a souvent accusé de malhonnêteté intellectuelle, alors que moi-même, parfois, je n'ai pas lu les gens dont je révèle la pensée. Et parfois, effectivement, c'est des personnes que j'ai lues, mais j'ai aucun souvenir de quoi, où, quand. Et pour éviter qu'on m'accuse de malhonnêteté intellectuelle, bah j'ai fait un peu la diète de pas lire. Comme ça, je suis un peu sûre que les pensées viennent pas de gens qui voulaient mettre de la propriété dessus. Et puis il y a aussi le fait que je me rends compte que quand je lis, je deviens beaucoup trop intelligente. Et ça m'éloigne des gens. Et du coup, pour rester accessible, j'essaye d'avoir une espèce de culture moyenne qui me rend encore composable. Il y en a qui me diraient, bah, c'est con comme raison, tu vas juste changer d'amis et puis c'est tout. Mais en fait, ouais, j'ai quand même remarqué que déjà que j'ai un vocabulaire qui est assez élargi, sans trop d'efforts et sans avoir vraiment lu, je vois bien à quel point ça crée une distance et parfois de la jalousie ou du mépris avec les hommes et les femmes qui m'entourent. Du coup, certaines personnes, il y en a qui aiment bien ça et ils sont contents, mais je crois que pour moi, il y a un lien un peu inconscient, un peu direct que je fais entre mon accessibilité au niveau social et le fait de pas donner l'impression que j'ai déjà pensé à plein de trucs et que parfois dans une discussion les gens ils sont frustrés de pas m'apporter quelque chose parce que j'ai déjà pensé aux trucs dans tous les sens. Il y a des gens, ils supportent pas ça et moi je crois que j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise. Du coup soit je fais semblant d'être bête, soit je précalcule le fait de me sous-cultiver en évitant de rajouter de la matière. Et donc je crois que lire fait partie de la matière à rajouter. Alors que je suis entourée de bouquins géniaux, hein. Je sais pas si t'as vu les bouquins qu'il y a ici, mais...
Non, j'ai pas vu.
Mais c'est des penseurs très bien et...
Asperger et...
Ah oui, ça c'est autre chose, ça c'est un...
Et fier de l'être, oui, c'est une bande dessinée, il me semble que je l'ai lu.
Celle-ci, non, ça c'est un... Et ça c'est pas le bouquin dont je parlais, c'est pas les bouquins politiques dont je parlais, c'est plutôt un mode d'emploi pour apprendre aux gens à vivre avec leur particularité neurodéveloppementale, n'est-ce pas? Et celui-là, non, c'est du texte écrit, mais j'ai pas fini de le lire. Mais après, avec un tel titre, quelqu'un qui nomme son bouquin Asperger et fier de l'être, c'est qu'il y a quand même la réalité antagoniste qu'il y a des gens qui ne sont pas fiers de l'être et que le monde n'est pas vraiment fait pour qu'on puisse trouver l'espace d'être fier de ce qu'on est quand on en a conscience. Mais elle dit, voilà, elle revendique, je suis fière de l'être malgré le fait que je sois Asperger. C'est ce qu'il y a un peu implicitement dans le titre.
Je trouve ça assez touchant quand tu dis que tu dois faire semblant d'être bête.
Mais peut-être en tant que nana, ça doit jouer. Le nombre d'hommes que j'ai insécurisés ou d'hommes qui ont été amoureux de moi et qui ont fini par me dire que j'étais trop intelligente pour eux et trop impressionnante, ça m'a un peu marqué quand même.
Et maintenant, tu as trouvé un homme qui est intelligent.
Alors, je pense qu'il est intelligent à sa manière. Il n'est pas du tout câblé comme moi, mais en tout cas, je crois qu'il fait partie du peu d'hommes qui sont capables d'accepter que l'intelligence de quelqu'un les dépasse de temps en temps et que toute leur fierté masculine n'est pas forcément mise en danger à cause de ça. Alors ça, c'est en apparence. Je me rends compte que parfois, subtilement, c'est quand même quelque chose qui... Il a quand même été construit comme un homme, donc il y a quand même des choses qui reviennent. Et il y a des choses qui l'agacent quand je comprends les choses mieux que lui ou plus vite. Mais je crois que c'est fort contrebalancé par le fait que activement je lui montre avec beaucoup de démonstration tous les endroits où je suis nulle pour qu'il se sente à l'aise. Donc ça, c'est un peu biaisé, du coup. Mais je trouve que par rapport à d'autres hommes, c'est pas qu'il est fier de moi, il accueille les intelligences et les aptitudes que j'ai, qui peuvent parfois être grandes dans certains domaines précis, mais j'ai encore l'hyper-adaptation au monde sexiste, qui est quand même celle d'essayer de mettre à l'aise les gens en leur disant le maximum de choses qui concernent mes inaptitudes, ma vulnérabilité. Donc ça crée quand même un déséquilibre parce que lui ne va pas forcément dire tout ce qu'il rate. Moi, je vais le conscientiser et je vais le verbaliser pour mettre les gens à l'aise et je me rends compte que je mets mon compagnon dans cette case-là. Mais c'est pas quelque chose qui me demande forcément, c'est un truc que je reproduis comme comportement, peut-être pour des raisons traumatiques ou pour pallier le potentiel déséquilibre qu'il va y avoir à un moment donné. C'est possible. Enfin, ça fait réfléchir quand même. C'est interpellant de me rendre compte que je fais quand même ça.
Vingt est une belle gaillarde, épaulée comme un camion, les yeux comme des mansardes, et puis les cheveux si longs qu'on aurait dit l'autoroute qui va de Marseille à Aix. Elle mettait en déroute tous les donneurs de complexes. Elle dit: je suis Gulliverte et je me sens bien. Vous me trouvez grande, certes, je n'en dis qu'on vient. Mais vraiment, mes petits hommes, vous êtes charmants. Vous me regardez en somme comme un monument. Grande, grande, je suis grande, je me demande à quoi servent ces échelles, ces escabelles. Par amour ou par bravade, on en vit une flopée. Entreprendre l'escalade de la belle démesurée. Mais il se perdait en route, ou bien il dégringolait. Ne pouvant la saisir toute, la plupart abandonnaient. Elle dit: je suis Gulliverte et vous m'épatez. Je ne me suis pas offerte à vos privautés. Car enfin, mes petits hommes, si je vous fais peur, vous semblez ignorer comme en bas mon cœur. Grande, grande, je suis grande, je me demande comment vous faire comprendre que je suis tendre. Tu es moche, mais pour qui l'on te prends-tu? Tu n'as rien dans la caboche, et puis tu es mal foutu. Non, vraiment, pour rien au monde, nous ne voudrions de toi. Tu es vraiment trop immonde, tu ne nous inspires pas. Alors on vit Gulliverte sera tatinée. C'est une trop grande perte, je veux être aimée. Prenez-moi, mes petits hommes, je raccourcirai. Je serai comme trois pommes si cela vous plaît. Grande, grande, je suis grande, je me demande quoi faire pour qu'on me désire, et même pire. Quand elle fut assez petite, on voulut bien l'épouser. On l'engrossa au plus vite pour l'empêcher de bouger. Elle fut sans crier grâce une admirable maman, sans un rêve qui dépasse et trompée raisonnablement. Et puis on vit Gulliverte se mettre à changer, et par la fenêtre ouverte on l'entendit chanter. Elle dit: mes petits hommes, je me sens grandir, et je me retrouve comme dans mes souvenirs. Grande, grande, j'étais grande, je me demande ce qui a pu me contraindre à tant vous craindre. Elle se mit sans scrupule à s'allonger à vue d'œil. Ses soupirs en minuscules durent en faire leur deuil. Malgré leurs échafaudages, leurs gradins, leurs ascenseurs, leurs chansons et leurs chantages, elle reprit sa hauteur. Elle dit: je suis Gulliverte et je me sens bien. Vous me trouvez grande, certes, je n'en dis qu'on vient. Maintenant, mes petits hommes, à vous de grandir. Comptez plus que je me gomme pour pas vous ternir. Grande, grande, je suis grande, je me demande si ce n'est pas par votre faute que je suis haute. Grande, grande, je suis grande, je me demande comment vous faire comprendre que je suis tendre. Comment vous faire comprendre que je suis tendre.
Est-ce que tu pourrais mettre nos auditeurs à l'aise et dire tout ce que tu ne sais pas bien faire?
Ah oui, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Par exemple, j'ai des difficultés à identifier mes émotions rapidement. Donc parfois, ça me prend des heures ou des jours. Et donc ça me pose problème pour moi parce que je me retrouve parfois dans des situations abusives où je n'identifie pas qu'il y a des gens qui sont délétères pour moi. Et je ne peux pas dire assez vite, je ne peux pas leur verbaliser mes limites parce que j'en ai pas conscience sur le moment, et j'en ai conscience quand le mal est fait ou quand la personne n'est plus là. Et donc c'est problématique quand il y a des gens qui vont pas croire ton discours quand tu vas leur servir trois jours plus tard que « Ah oui, mais en fait, ce que je ressentais, c'était ça et j'aurais préféré que tu me parles différemment. » Mais pour les gens qui sont OK et qui savent que je fonctionne comme ça, c'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de choses que je sais pas faire. J'ai des dysfonctions exécutives qui font que J'ai des difficultés à avoir un sens des priorités quand il s'agit d'hiérarchiser des tâches dans ma journée. Quand je suis dans un état émotionnel un peu fébrile et quand je ressens de l'insécurité affective, je dysfonctionne pour programmer des tâches. Et ça, c'est vraiment, en termes de survie, c'est assez fondamental parce que ça peut être, par exemple, se doucher avant de se nourrir ou pas. Ça m'arrive de sauter des repas parce que j'oublie qu'il faut que je mange alors que mon corps me dit qu'il faut que je mange. Donc j'ai aussi une difficulté à programmer les tâches, à les hiérarchiser dans certains contextes avec un certain niveau de stress parce que sinon j'arrive encore à le faire. J'ai des difficultés à identifier mes émotions, à les associer à une action. Par exemple, parfois, il y a une personne qui m'a traumatisée, qui peut rentrer dans une pièce et ma gorge peut se serrer, mais je ne peux pas avoir forcément l'idée d'associer ma gorge serrée au fait que je ne me sente pas bien. Et souvent, ça atteint des états où mon corps se recroqueville et il sous-respire parce qu'il est en situation de détresse et de... Et en fait, c'est que quand les gens me demandent si je vais bien que je me rends compte qu'il y a peut-être une possibilité que j'aille pas bien. Et donc du coup, à partir de là, j'écoute ce que mon corps dit et j'essaye de me dire « Ah oui, peut-être que je me sens pas très bien en fait ». Et donc j'ai souvent un décalage, comme si mon cerveau était pas capable d'identifier ces trucs de survie simples. Donc ça, c'est des trucs que je sais pas faire. Il y a des défauts, c'est souvent les défauts de mes qualités. Moi, j'ai une capacité à... une facilité et une tendance à aller dans les détails et à être hyper focus et à idéaliser des choses qui peut faire que je suis extrêmement exigeante dans mes relations affectives, par exemple. Et j'ai aussi ça me rend extrêmement intolérante à des gens qui vont pas dans le détail et qui reprochent les gens d'aller trop dans le détail alors qu'eux-mêmes bénéficient dans leur quotidien d'inventions qui ont été inventées par des personnes qui vont dans le détail. Et ça me met très en colère. Ça peut vraiment me mettre... ça me peut mettre très en colère. J'ai un défaut pour moi-même qui est le fait que j'ai beaucoup trop de neurones miroirs. J'ai trop d'empathie, mais vraiment cognitive dans le sens... Enfin, pas cognitive, j'ai une empathie qui est... J'ai vraiment le prototype de l'autiste que quand quelqu'un pleure dans la même pièce, je pleure aussi assez vite. Et je fais pas la distinction entre son corps et le mien. Et c'est pareil aussi quand il y a quelqu'un de colérique dans la pièce. Alors je deviens pas colérique, mais j'ai l'impression qu'elle me parle à moi, même si elle parle à quelqu'un d'autre. Et ça peut être handicapant dans ma vie. Ça peut être ce qui fait que j'ai plutôt tendance à me réfugier dans des grottes plutôt que de rester dans des espaces publics où il y a un flot... et un flux d'émotions qui est beaucoup trop intense pour moi, et que mon cerveau ne peut pas processer, en fait. Parce que j'ai une hyper-acuité. Je suis à la fois très nulle pour identifier les émotions pour moi, mais en même temps, je suis très bonne pour identifier les émotions des autres. Et donc ça, c'est un paradoxe que j'ai. Mais ce qui est handicapant dans l'hyper-empathie, c'est quand je me laisse envahir par des situations et qu'une émotion intense de quelqu'un peut me mettre en burn-out émotionnel. Au point que je dois décompenser en voyant personne pendant plusieurs heures ou plusieurs jours parce qu'il me faut du temps pour m'en remettre. Et ça, c'est pas très compatible avec une vie normale, un emploi qui demande des horaires, avec une assiduité. Tout ça, j'ai pas, c'est compliqué. Et c'est pas pour rien que j'ai un métier atypique où donc, je choisis les conditions de travail, c'est parce que je ne suis pas adaptée et adaptable au monde du travail tel qu'il est. Même s'il est de toute façon pas adapté aux gens un peu plus typiques, moi c'est pire. Et donc ça, c'est les qualités, les défauts, les faux qualités. L'empathie, ouais, c'est problématique. Aussi, quand par exemple j'utilise un outil et que je tape sur un clou, je deviens le clou. Et parfois, je me recroqueville comme le clou, alors que je suis juste en train de tasser un clou dans du bois. Et j'ai un problème de distinguer mon corps et de ce que je fais à mon environnement. Et ça peut me mettre dans des états physiques qui sont difficiles à détendre des fois. Et le côté positif, c'est que souvent, je vois beaucoup de choses, je sens beaucoup de choses, et c'est souvent pas à côté de la plaque. Et un autre côté négatif de ça, c'est qu'il y a des gens que ça peut mettre très mal à l'aise. Je me rends compte que les amis qui sont proches sont souvent des personnes qui se mentent pas trop à elles-mêmes. C'est des gens qui se connaissent bien, qui ont une forme de lucidité sur elles-mêmes, et qui sont pas dans un mensonge permanent, « je suis telle personne », alors qu'en fait, il n'y a rien de ça dans leur manière d'être au monde et d'être aux autres et à eux-mêmes. Donc ça, c'est drôle, je me rends compte, j'ai les amis qui restent près de moi et que j'aime beaucoup, eh ben, c'est des gens qui sont, ils ont une maturité, ils se connaissent bien. Où ils connaissent bien leurs défauts et ils ont un rapport qui est réglé à ça. Ils sont pas dans un truc un peu... Ils continuent de vouloir changer des parties d'eux qui sont trop enracinées et qui emmerdent le monde extérieur pour ça. C'est, souvent, c'est des personnes, voilà, ils disent, voilà, moi, j'ai telle limite, et je l'assume et c'est OK. Et que je sois un homme ou une femme, quels que soient les stéréotypes de genre qu'on colle sur moi, moi, c'est comme ça que je suis.
Et toi, t'es comme ça aussi, alors ?
J'ai l'impression que oui, à un certain degré. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pas encore appris de moi et que j'ai encore du chemin. Mais ouais, je crois que j'ai quand même une lucidité sur moi qui fait que... Mais après, c'est ça, je crois que la plupart de mes comportements sont... mue par une empathie extrême. Moi, j'ai pas vraiment... Ça me paralyse souvent de mettre les gens mal à l'aise, parce que de manière égoïste, quand ils sont mal à l'aise, je suis mal à l'aise. Donc c'est une forme d'empathie... C'est une empathie égoïste, c'est pas une empathie altruiste. Je préviens des situations pour ne pas avoir à les subir. Parce que s'ils souffrent, je vais souffrir aussi. À mon avis, c'est quand même comme ça qu'il faut voir les choses. Et après, j'ai pas de penchant pervers ou sadique. Du coup, bah, j'ai pas de plaisir à voir les gens souffrir. Donc, en général, les actions que je fais dans ma vie et mon comportement est souvent mu par le fait d'être le moins délétère possible. Et donc, j'ai plein d'outils pour traverser des conflits. Mais parfois, j'ai encore des stratégies d'évitement de la confrontation avec des gens. Résiduelle parce que je continue d'avoir peur de mettre les gens mal à l'aise, parce que personne n'a envie de se faire interpeller sur des choses qui n'ont pas été. Mais en fait, c'est plus tu t'entraînes à le faire et moins ça te pose problème, parce que tu vois que souvent ça se passe mieux. Enterrer un conflit, c'est pas le régler, c'est le reporter à plus tard ou le laisser se transformer en autre chose. Donc je suis contente d'avoir développé ces outils-là. Je crois que je les utilise mieux plus qu'avant, mais j'ai encore cette fameuse peur qui fait que je vais pas confronter les gens tout de suite, parce que je vais pas avoir l'énergie empathique de subir le mal-être de l'autre quand je vais l'interpeller sur quelque chose. Et après, voilà, quand on a une vision systémique des choses, c'est pas... Le conflit, il existe dans une dynamique à deux ou à plusieurs. Il n'y a pas une personne qui est plus fautive que l'autre. Je crois que c'est un réglage de malentendus dans le chaos à ce moment-là, et pas forcément une personne qui va devoir changer son comportement pour que ça se passe bien pour tout le monde. C'est pas toujours si unilatéral, quoi.
Mais il y a des gens qui sont touchants, parce que je ne sais pas s'ils ont de l'empathie ou pas, mais ils glissent sur les choses et ils ont un contact agréable. Mm-hmm. Ils ne font pas semblant que ça n'existe pas, mais ils font un lien tout de suite. Il y a une petite réflexion qui rend tout merveilleux. Il y a des gens qui ont un don. Hein,
ouais, c'est vrai. Et toi, tu penses que tu ne l'as pas ?
Non, moi, je suis plutôt pour... je suis douée quand ça ne va pas bien, parce que je sais ce qu'il faut faire tout de suite.
Ah ouais, c'est rigolo.
Mais je suis pas quelqu'un qui est psychologue. Par exemple, si je fais une interview, puis un type, je lui demande de me parler des sensations quand il vole avec un avion.
Ouais.
Puis il me raconte quelque chose, et puis il me demande, alors ça vous a plu l'interview ? Bah, c'était un peu entendu ce que vous avez dit.
Mais c'est excellent.
Puis il y a son téléphone qui sonne. Donc la répartie, elle vient pas tout de suite. Et toi, tu te dis, mais comment je vais rattraper encore ce truc ?
Ah oui. Ça peut ne pas être blessant si toi, tu lui fais signifier que pour toi, il n'y a pas d'enjeu, et que ça ne remet pas en question le fait qu'il ait une vie intéressante, mais que c'est juste à un moment donné, dans tel contexte, avec cette prise de son-là, bah, c'était un peu entendu. Mais ça, c'est la vérité. C'est la vraie vérité, mais en fait. Et rien ne t'empêche de la dire.
Fanny, je pense que ce monsieur était inintéressant.
Ah, d'accord. Alors là, dans ce cas, c'est autre chose. Tu souffres d'un syndrome d'attente démesurée. J'en sais rien. Un SAD, là. Tu souffres d'un SAD.
C'était aussi quelque chose d'amusant, parce que je fais aussi des interviews. Je ne sais même pas que je vais interviewer quelqu'un. Oui. Je suis curieuse de quelque chose, bah, et je m'invente. Je suis journaliste et je vais avec un micro et je lui pose des questions.
Oui, mais c'est déjà pas mal.
Et
ça,
donc, ça c'est aussi dérangeant parce qu'il n'y a pas spécialement d'émission de radio à la clé. J'invente tout un truc.
Ouais, mais
parce que je veux savoir si j'ai envie d'aller dans ce club d'aviation, qui sont ces personnes.
T'inventes un.
Donc je suis journaliste et je viens poser des questions parce que je cherche un professeur d'aviation qui me corresponde. Donc c'est quelqu'un qui a de l'imagination, qui me fait rire et qui n'est pas à cheval sur les règlements. Ce n'est pas évident.
Ouais.
Et qui n'est pas misogyne. Alors là, c'est.
La barre est très haute. Mais ça peut arriver par accident.
C'est pour ça que je me suis permise de dire que ce monsieur était inintéressant, parce que je me souviens que c'était ça, en fait.
C'est rigolo, comme t'as des stratégies un peu alambiquées pour faire tes entretiens d'embauche pour ta vie personnelle, mais avec des canaux alternatifs, hein, des canaux de ton choix, comme faire semblant d'être journaliste, faire parler les gens, et ensuite, éventuellement, si la pseudo-émission qu'on invente ou qu'on n'invente pas te semble intéressante, après, tu vas t'inscrire au club d'aviation, éventuellement. Et c'est une manière de communier avec les gens, mais sans avoir à leur parler. Et ça me fait rire, ces stratégies un peu alambiquées, de faire lien sans faire lien, ou de pouvoir choisir d'être pudique ou mutique au bon moment, parce que t'as un rôle qui te le permet, parce que c'est pas toi qui parles, c'est l'autre. Alors qu'en fait, c'est une manière de te faire parler que de choisir les gens à qui tu parles ou que t'interviews, c'est rigolo. Enfin, c'est une manière, ça peut être ça en tout cas.
Non, c'était pas rigolo. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très rigolo.
Mais ça pourrait être intéressant aussi de faire une interview, enfin de mettre en lumière à quel point la vie des gens peut nous paraître banale et qu'est-ce que ça dit de nos vies à nous. Et ça, ça devient intéressant.
C'est pas parce que le monsieur était pas du tout banal. Hein. C'était le championnat de vol à voile du monde.
C'est intéressant pour qui? Non, c'est pas intéressant pour moi. Ça
c'était des valeurs
pas.
De vitesse, de. Mais c'est banal, oui.
Peut-être que c'était pas zoéifié comme manière de présenter les choses. Il aurait peut-être présenté ça avec de la poésie et de manière atypique.
C'était un monsieur qui aimait gagner, aller plus vite que les autres. Ouais, c'est pas...
Dans la société actuelle, on s'en passerait bien de ça. Je crois qu'effectivement,
il parlait pas beaucoup du plaisir de voler, de la lenteur du vol, de. Pas des nuages.
Mais peut-être que tu présupposes aussi que. C'est peut-être Zoé qui présuppose que ces choses-là sont un dénominateur commun chez les gens qui font de l'aviation, alors que peut-être pas.
Non, c'est ce que moi j'aime dans l'aviation, parce c'est que ça, oui. Toi t'aimes bien t'emballer dans un hamac en forme de U.
Oui.
Moi ce qui me calme, c'est de voler. Mais c'est moins facile.
Ah ouais, là c'est compliqué, ouais. Il faut un permis et tout. Et un
Il faut se coltiner à un abruti, surtout.
C'est ça le problème. Ouais, et encore toi, t'aimes bien l'éviter en fait, parce que t'aimes bien la tension.
La balançoire, oui.
Parce que moi, j'aime bien ça, mais tu pourrais aussi hacker ton cerveau en te disant je vais me fabriquer une balancelle avec des bruits qui sont. Peut-être que comme moi, tu aimes les bruits blancs, à savoir les vibrations qui apaisent tes oreilles.
Je connais
pas l'avion
tout ça.
L'avion fait un peu le tout. Elle fait une vibration constante dans les oreilles d'une longueur d'onde qui t'apaise le cerveau. Il y a ton corps qui vibre et puis t'as la pesanteur qui change et ça te câline un peu le corps dans l'espace.
Quand tu es dans les airs, tu as l'impression de faire partie de tout.
Tu as la vision d'ensemble aussi.
Oui, et tu fais partie du monde. Cette sensation de liberté et de faire partie de quelque chose de concret.
Ah, c'est marrant.
C'est vraiment très puissant, c'est une espèce de.
Mais tu pourrais te mettre dans un caisson, sur une tour, avoir une vision générale de la vie.
Oui, ça marcherait. Oui.
Et tu mettrais ton caisson sur un rail qui tournerait, donc ça te permettrait d'avoir une espèce de.
J'ai adoré les loopings, oui.
Toi, tu l'as vu dans une autre dimension, mon tournage, mais oui, les loopings, ça marche aussi. Mais techniquement, c'est un peu plus compliqué.
Mais c'est la pesanteur, en fait, ce que je recherche.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est là, dans le looping, on a une sensation d'apesanteur qui dure une seconde et demie, mais c'est impressionnant.
Oui, mais oui, c'est ça. T'aimes bien que ton corps se fasse câliner par la pression des changements de direction. Mais c'est pour ça que t'aimes bien les balançoires. T'aimes bien. Mais peut-être que comme pas mal d'autistes, t'as une sensibilité vestibulaire qui est au-dessus de la moyenne et du coup, enfin, qui est un peu plus accrue que la moyenne. Et du coup, t'as un énorme plaisir à retrouver dans ces états-là. Moi, souvent, je me rends compte que je passe beaucoup de temps à léviter, à faire léviter mes bras ou mes jambes, ou à me faire léviter sur un objet qui tourne dans ma journée. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis fabriqué les objets pour faire ça. Pour ça, quand je vais pas bien, je me mets dessus et ça m'apaise directement. Et je dis que c'est une manière très low-tech d'aborder ces problèmes pour pas avoir des problèmes de santé mentale et d'anxiété constante. Tu te mets sur ta machine à apaiser. Et ça me fait rire parce que moi, des machines à câlins, en fait, je m'en suis fabriqué inconsciemment dans ma vie en oubliant que je voulais fabriquer ça quand j'étais ado. Et là, j'ai ressorti mes plans récemment de la machine à câlins que j'avais fabriquée quand j'étais ado. Et c'est... Bah, maintenant que je suis mécanicienne et que j'ai un peu de matériaux, bah, je me rends compte que je peux la fabriquer. Avant, c'était un truc un peu irréel.
J'ai mis du parfum, ouais, c'est pas trop horrible.
C'était horrible.
Pardon, c'est très
pire.
Rare.
Oui. C'est moi pire, mais quand t'es arrivée, je me suis dit, oh là là, ça va être dur. Elle sent
mais
le
moi,
parfum.
Je trouve que tes odeurs, elles sont super bonnes. Tes mandarines pourries, ça sent super bon.
Ah oui, mais ouais, c'est accidentel que ce soit là. Mais c'est pas pour que ça sente bon qu'elles étaient là. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai voulu les manger et puis j'ai sous-estimé leur degré de pourriture. Mais ouais, j'ai vraiment un dégoût pour le parfum. J'utilise des savons sans parfum, des lessives sans parfum. Ça me... Ça
non, mais ce que perturbe. Tu sens comme odeur, le cèdre.
Ah oui, le cèdre. Mais il y a des odeurs très particulières comme le réglisse, le cèdre et l'anis qui me mettent dans un état assez fou. Mais les parfums synthétiques qu'il y a sur les humains, parfois, moi, ça me met en apnée. Ça me
je sais pas, c'est Dior, je sais pas si c'est synthétique. C'est synthétique.
Bah, que ce soit synthétique ou pas, il y en a qui me... Même il y a des parfums naturels de fleurs que je ne supporte pas, quoi.
Ah, c'est des
fleurs. Je préfère l'odeur de la sueur des gens.
Mais c'est bien que tu le dises parce que je ferai attention aux odeurs que je diffuse.
Et puis je me dis, bon, les gens sentent bon, faut qu'ils arrêtent de se cacher.
Ah, mais c'est parce que ça fait des années que je pensais comme toi. Et puis tout à coup, j'en ai eu marre, j'avais envie de sentir quelque chose que je choisissais.
Et encore, moi, c'est même pas un truc que je pensais, c'est un truc que j'ai senti et que j'écoute tout récemment. Et je me rends compte qu'en supprimant les parfums dans ma vie, ça va beaucoup mieux, quoi.
Ah oui, moi j'avais envie de retourner dans le monde des parfums. Mais c'est assez maladroit. J'en ai fabriqué, la première personne qui les a sentis quand j'étais petite, c'est mon cousin, et il a vomi.
Donc, je crois qu'un niveau extrême d'hypersensibilité aurait été l'étape d'après, ça aurait été que je vomisse. C'était pas loin.
C'est vrai? Non, c'est fou.
Ouais, ça me fait des haut-le-cœur assez fous. Puis comme moi-même, je me fais pas subir ça au quotidien, bah en fait, le retour de ça est d'autant plus.
Et j'ai super exagéré, hein, j'en ai mis partout.
Ah ouais.
Ah ouais. Ma pauvre malheureuse.
Bon, ça va, ça s'est tassé avec le temps. Ou alors je me suis habituée olfactivement. Mais du coup, ça te donne un peu des super-pouvoirs. Parfois, tu sais deviner qui est resté dans la pièce combien de temps. J'ai un peu des super-pouvoirs comme ça. Ça, c'est mon petit shoot de boules de cèdre.
Ah, ça sent super bon.
Je crois que c'est des antimites.
Comment tu trouves des choses comme ça?
Bah, ça se vend dans les espèces de magasins pour mettre ça dans les penderies et...
Ah, j'aimerais bien avoir ça chez moi.
C'est, j'en ai acheté. Bah ça, c'est un détournement un peu.
T'as détourné?
Je l'ai acheté uniquement pour me faire des shoots olfactifs. Mais je vais pas mettre ça dans mes vêtements. Déjà, il y a pas de mythe ici. Je crois même que
ça
fonctionne pas très bien.
Et ça s'achète avec la belle boîte, non? Quand même.
Non, non, la boîte, ça c'est un truc que j'ai trouvé.
T'as trouvé ça
dans une poubelle, je pense.
Les gens, j'ai
75% des trucs qui est ici. Ça, c'est une petite tour de translucidité Lego. C'est tout ce que peuvent m'offrir mes Lego en termes de palette chromatique. J'ai des Lego translucides aussi, je suis un peu obsédée par... Ouais, je suis vraiment obsédée par ça.
Pareil, j'ai le fameux super pouvoir où il s'agit de dénombrer un nombre incroyable de choses quelque part. Je l'ai, c'est vraiment très perturbant. Ça sert à rien dans la vie, enfin... Un peu quand je dois trier des vis et tout ça, mais c'est quand même drôle d'avoir des espèces de super pouvoirs accidentels comme ça. Et oui, pareil, sentir qui est resté combien de temps dans une pièce, ou même reconnaître les odeurs des gens, ou alors sentir un incendie au loin. Moi, j'ai souvent sauvé des gens comme ça, donc c'est un peu les trucs un peu utiles, les hypersensibilités qui te rendent un peu super-héros comme ça. Ou alors le fait de voir dans la nuit, parfois on dit mais on voit rien ici et moi je vois très bien dans le noir.
On fait une pause carrière?
Ouais.